Dans ce podcast, je vais accueillir un photographe qui a décidé d'arrêter la photo de mariage. Alors oui, je sais, c'est le guide du photographe de mariage, l'idée étant de vous aider à vous lancer dans la photo de mariage, mais je reçois aujourd'hui Florent Agnières, que vous connaissez peut-être pour sa chaîne YouTube Full Frame. On avait eu l'occasion de se rencontrer très rapidement sur un salon du mariage, un ou deux salons du mariage, non, salon de la photo, salon du mariage, n'importe quoi, sur des salons de la photo, et on n'avait pas eu le temps vraiment de discuter. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, dont j'apprécie énormément les vidéos, et son état d'esprit également, et il est passé sur Lyon, et donc on a eu l'occasion de discuter. Et à ce moment-là, je lui ai demandé de faire un podcast sur ce sujet, puisqu'il a sorti 4 vidéos il y a quelques mois, où il explique son expérience en photo de mariage, une expérience plutôt très mauvaise, non pas forcément causée par le mariage en tant que tel, mais causée plus par les personnes qui gravitaient autour. Et il explique comment il a arrêté cette activité, pourquoi et tout ça. Et en regardant ces vidéos, je bouillonnais derrière mon écran puisque j'avais vraiment envie de discuter avec lui. J'avais vraiment envie de lui dire « Mais non, mais c'est dommage que tu sois passé par là parce que la photo de mariage, c'est génial !» Enfin bref, je voulais le convaincre de recommencer. Mais j'ai un peu abandonné l'idée quand même, puisque c'est pas mon job en fait de convaincre les gens de commencer. Mon job est de les aider, d'aider ceux qui veulent vraiment se lancer. Et ben, ce podcast est l'occasion de plus le rencontrer, de plus rencontrer Florian, et surtout de discuter avec lui, de qu'il vous raconte cette expérience d'une façon différente. Il va vous raconter cette expérience d'une façon différente des vidéos, donc même si vous avez déjà vu les vidéos, ce ne sera pas exactement la même chose. Au contraire, on va aller sur une approche peut-être encore un peu plus psychologique. Et puis, si vous voulez passer une heure un peu cool avec moi et Florian, et bien, générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Donc, monsieur Florian Agnières,
oui,
de la chaîne Full Frame.
Bonsoir.
C'est un plaisir de t'avoir ici.
C'est un plaisir partagé.
Dans les locaux de F1.4.
Hein, les locaux de F1.4.
Du guide du photographe de mariage également.
L'unique.
Voilà. Et en plus, tu ne connaissais même pas le guide du photographe de mariage.
Pas du tout.
Il y a une heure.
j'ai appris ça sur ton canapé. C'était.
Alors, fais gaffe, ça peut être très mal interprété.
Ouais, non, mais oui. Bon. On va pas épiloguer.
Et donc, je t'ai proposé. Enfin, là, c'est la première fois qu'on a vraiment le temps de discuter. Et j'ai suivi il y a quelques mois. Il y a 3-4 mois, t'as sorti 4 vidéos.
Sur le coup de juin, juillet.
Voilà, t'as sorti des vidéos en 4 fois pour faire plus de vues, ça on le sait.
Non, quel salaud. oui, la YouTube monnaie.
Bah voilà, j'aurais même fait en 10 fois moi. Mais,
voilà.
Et tu as sorti une vidéo, enfin ces 4 vidéos, c'était pour raconter ton parcours de photographe de mariage.
Oui.
Et donc là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir avec toi ton parcours qui est atypique. Mmh. Qui est sacrément atypique, puisque maintenant, tu n'es plus photographe de mariage.
Non, c'est une décision qui a été prise après 2 ans, enfin 2 ans après avoir mis un terme à cette situation qui a été plus ou moins critique.
Je sais que c'est compliqué pour toi, t'es pas très habitué à parler devant un micro.
Alors, pour le coup, c'est clair que ça me sort de ma zone de confort. Mais faut pas non plus s'arrêter à là, c'est à moi aussi de rebondir et de répondre. Ouais, c'est de rebondir, je veux bien que tu m'aides un petit peu quand même.
Je sens que ce podcast, là, il va être un petit peu laborieux.
Ouais, mais on essaye, et je suis debout depuis 3h30.
Oui, voilà, parce qu'il pourrait être 4h30 du matin là.
C'est vrai.
Mais il est 17h13.
De l'après-midi.
De l'après-midi. Donc, vous avez compris, encore un podcast qui va être un peu rigolo. Quoique, pas tant que ça, puisque ton expérience n'est pas forcément des plus rigolotes, mais
non.
Est-ce que tu peux expliquer le début ? Déjà, on va commencer par le début, c'est mieux.
Mm-hmm.
Comment tu es arrivé à la photo de mariage ?
Alors,
est-ce que tu faisais déjà de la photo aussi avant ? Enfin, est-ce que tu faisais de la photo pro aussi avant ?
Alors, je n'ai pas fait de photo pro avant. En fait, à la base, ça part surtout d'un amour de l'image que j'entretenais avec mes frères et mes cousins, où on tournait des petites vidéos comme des enfants avec le caméscope du papa. Et au fur et à mesure, je me suis mis à m'intéresser à beaucoup de choses, dont à la photographie. Une chose en entraînant une autre, un tutoriel en entraînant un autre, je me suis mis à produire et à faire de plus en plus de photos pour que ça puisse passer de la simple petite passion du dimanche à l'envie concrète et réelle de vouloir en faire mon job. Mmh. Et donc tout ça, là j'en parle, j'avais 15 ans. À l'heure actuelle, l'année prochaine, je fêterai... Ah, tu ne sais même pas quel âge j'ai.
Non,
en fait.
je ne sais pas, mais physiquement, je dirais 45.
enfoiré. Au moins 200. Non, l'année prochaine, je fêterai mes 25 ans. Ah. Et je suis en train de réaliser que du coup, ça va faire 10 ans que je fais de la photo. Voilà. F1.4, mon partenaire claque dans la tronche depuis 2013.
Depuis 2012 même.
Depuis 2012. Mais alors voilà, à l'époque, j'étais au collège, puis au lycée. Puis ma passion de la photographie a fait boule de neige, en fait. Ça a pris de l'ampleur par prendre de l'ampleur. Jusqu'à arriver plus ou moins à l'année du bac où je me suis dit, bah voilà, que j'ai mon diplôme ou que j'ai pas mon diplôme, j'ai envie de faire de la photographie, mais je sais absolument pas comment m'y prendre, ni de par quel bout tirer la ficelle.
Quand tu dis vouloir faire de la photographie, c'est photographie pro ou juste...
J'ai envie de vivre de la photographie.
Okay.
Et dans le même moment, ma mère faisait passer le bac à des personnes qui ne l'avaient pas eu lors de l'année de leur bac. Donc c'était des garçons et des filles qui avaient approximativement entre 25 et 30 ans. Et parmi une de ses élèves, il y avait une fille pour laquelle son copain était caméraman de mariage, enfin avait développé son activité de caméraman de mariage depuis approximativement deux petites années avant. Et de fil en aiguille, ils en sont venus à nous présenter, tous les deux. Ma mère s'est mise à me présenter à la copine du fameux caméraman, et la copine du caméraman m'a présenté réciproquement.
Parce qu'elle savait que tu avais un goût pour l'image et...
Ah bah c'est ma chère petite maman qui m'a fait la meilleure publicité du monde.
D'accord, ce que je veux dire c'est que le contact s'est fait, elle vous a mis en contact parce que tu aimais la photo,
voilà,
l'image et que lui aimait l'image aussi.
Et elle savait aussi que je voulais vivre de la photographie. Donc de par là on a fini par se présenter, par se rencontrer avec ce fameux caméraman et c'est là qu'une longue histoire a commencé.
Allez, installez-vous bien.
Voilà. Prenez un café.
Prenez un bon café ou un bon thé. Baissez la lumière. Voilà. Installez-vous dans votre canapé ou dans votre fauteuil avec les écouteurs sur les oreilles. Et c'est parti. Florian, c'est à toi pour la magnifique histoire de ta vie.
Et bah, du coup, c'était dans des temps immémoriaux, en 2014, l'année de mon bac, où cette personne, après s'être rencontrée, m'a proposé de me rendre à mon premier mariage pour faire un test. Donc, nous y sommes rendus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je n'avais aucune idée de ce qu'était un mariage avant. Le dernier mariage que j'avais fréquenté dans ma vie, c'était un mariage d'amis, des parents. J'avais 6 ans. Enfin, c'était un souvenir plus que lointain pour moi. Pour dire, je ne savais même pas vraiment comment se déroulait un mariage, qu'autre que dans les films américains. Mmh. Donc, c'était une expérience à part entière. C'était un événement même pour moi. Pour dire, j'y suis allé avec un t-shirt troué, avec des canettes dessus, et un jean troué aussi, avec un petit Pentax KR. Enfin, j'y suis allé à la nique des plus totales, mais pas pour mal faire. J'y suis allé avec mon skin de lycéen, aussi bêtement que ça puisse paraître.
Et dire que.
Avec mes cheveux longs.
Et dire que certains pensent que je suis mal habillé sur les mariages.
Ah ouais, non, mais alors là, c'était un cas. Avec des rangers, enfin. Vraiment, le mec qui a rien à foutre sur un mariage, mais. J'avais pas les codes, j'avais pas ce qu'il fallait savoir. Enfin bref, on se fait le mariage, et c'est là du coup que je vois plusieurs choses, que je découvre la mairie, les photos de groupe, tout le process qu'il y a pour arriver jusqu'à la photo du gâteau, la première danse.
Et donc c'était journée complète.
C'était journée complète, ouais, des préparatifs jusqu'à l'arrivée de la pièce montée. Et ce mariage, il me restera ancré toute ma vie, parce que du coup, en soi, c'était mon premier mariage en tant que personne... Je vais pas dire adulte parce que pour un lycéen, on va pas, même là, je vais pas le dire, mais pour une personne, une grande personne, quoi. Voilà, plus qu'un enfant. Mmh. Cette personne-là avait des pratiques qui normalement se font pas vraiment sur un mariage. Et
c'est pas le copain de la nana. C'était
le copain. Ouais.
Ok.
Si on peut lui donner un nom.
Ouais, on peut.
Mais
tu l'avais nommé comment déjà dans ta vie ?
Professeur Tournesol.
Professeur Tournesol.
Alors aucun rapport, n'en cherchez pas, il y en a aucun. C'est volontaire. Je voulais un personnage avec aucun rapport.
Mais donc, il a quel âge cette personne ?
Il avait 28 ans ou 29 ans.
D'accord.
Quand moi j'en avais 18. Donc c'est là que le professeur Tournesol fait son entrée. Alors il y avait une autre personne qui est venue avec nous dans l'optique de me former parce que j'étais surtout là pour apprendre un petit peu à comment ça se passait et il y avait un photographe vraiment dédié. Sauf que ce qu'on m'avait pas dit, c'est que cette formation était ma seule et unique formation. C'était regarde, j'espère que tu as bien assimilé parce que là tu te démerdes à partir de maintenant.
Genre dès le deuxième mariage, ça
a été... Ah bah, le deuxième, c'était moi, photographe direct, hein, attitré, alors que j'avais jamais fait de mariage de ma vie avant ça. Et que les photos étaient ce qu'elles étaient. Hein.
Oui, parce qu'en plus, tu faisais un peu de photos, mais ton niveau était comment en
photo ?
Ah bah,
il était d'un niveau d'une personne qui se contente de regarder quelques tutoriels sur YouTube et qui habite dans les champs, donc qui prend en photo les champs.
D'accord.
Et les épis de maïs. Donc c'est, voilà, je pense que là, j'ai, le niveau parle à plus ou moins tout le monde, là, je pense.
D'ailleurs, on n'a rien, absolument rien, non, contre les gens qui font des photos d'épis de maïs.
Voilà, qu'on se le dise.
Oui, mais... parce qu'après, je vois les haters arriver voilà, tout de suite.
Et donc, ce premier soir, ils sont mis à se mettre une murge, une maxi-murge, une énorme caisse pour dire qu'ils ont roupillé dans la bagnole. C'était
après la fin de la presta ou c'était,
c'était après. Alors, ils ont commencé pendant la presta. Et moi, c'est très très con, mais ce mariage me restera aussi gravé dans la mémoire, dans le sens où le moment, à l'instant T, je me suis dit, c'est génial. La photographie de mariage, c'est génial. Tu vas à des mariages de gens que tu ne connais pas, ils te payent. Tu te la colles et tu fais des photos. Enfin, tu fais le boulot que t'aimes en te la collant et les mecs ils te payent. C'est formidable. Enfin,
carrément.
Comment tu veux vendre ça autrement? C'est
mais
ouf.
Vous avez forcément besoin d'un pote que vous ne connaissez pas sur votre mariage qui va venir picoler.
Voilà. Et bah, c'est le photographe. Et donc, de là, et bah, forcément, moi je me suis dit, c'est ouf. C'est génial, j'ai envie d'en refaire. En plus, c'était tout nouveau pour moi, donc je connaissais pas du tout. J'ai vraiment grave envie d'en refaire. Et bah, Trifon Tournesol, du coup, pour lui, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce qu'il dit, bah ça tombe bien, qu'est-ce que tu fais samedi d'après, et encore après, et encore après.
Ah oui, et t'as enchaîné comme ça.
J'ai enchaîné comme ça, alors j'en ai pas fait beaucoup, j'ai pas enchaîné beaucoup, parce que je suis arrivé après le bac, soit plus ou moins au milieu de l'été, donc il y avait beaucoup de saisons qui étaient bookées sans prestat de photographe, parce que je n'étais pas encore là, et le pote qui était là, c'était de la dépanne. Donc j'ai fait 3 ou 4 mariages cette année-là.
D'accord.
Je me souviens plus exactement, mais après, l'année, elle s'est terminée. Ouais, tout seul, ouais.
D'accord.
Et donc, cette personne-là m'a absolument pas appris à tenir un appareil photo, ni à travailler mes images. Je me suis démerdé en autodidacte, pur et dur. Alors, d'une certaine manière, des fois, tu peux te valoriser d'être autodidacte. Là, j'avoue, j'aurais aimé avoir une personne qui me dit « Là, toi, ce que t'as fait, c'est un petit peu naze, c'est un petit peu ci, c'est un petit peu ça. » Parce qu'au bout d'un moment, bah, j'ai pris la confiance. Je veux dire, t'es un petit lycéen, tu sors de l'école, tu te dis « Yeah, je fais le métier que je voulais, je suis surpuissant, quoi. » Jusqu'au jour où tu te foires sur un mariage, où le mariage, tu l'éclates, quoi. Enfin, les photos, tu fais un reportage, le pire photographe de mariage du monde. Et là, ça fait mal quand même. Quand tu te dis, enfin, quand tu chutes, tu te dis ah putain, et puis y a rien ni personne qui m'a prédit ça, quoi.
Mais t'as chuté, enfin, t'as vu que t'avais chuté parce qu'on te l'a dit, parce que tu t'en es aperçu.
Ah, parce que les mariés, ils sont manifestés.
Ah oui,
c'est quoi ce photographe de merde?
Ouais.
Et c'était peut-être mon 6e mariage. Enfin, c'était la saison d'après, en fait.
D'accord.
J'ai fait 4 mariages en 2014. J'étais super content, j'étais refait, j'étais fou. Arrive le premier mariage, avril-mai, un truc comme ça. Tout confiant, ouais, je fais de la photo de mariage. Et là, je fais n'importe quoi, juste parce que j'avais trop. Enfin, j'avais pris la conscience.
Ouais, mais ça, c'est un truc que. Ça m'est arrivé. Alors, pas de foirer à ce point-là un reportage, c'était pas le truc, mais de prendre la confiance, de prendre trop de confiance. Et j'ai vu, enfin, j'ai constaté par moi-même, là, j'avais personne pour me le dire, parce que le résultat était quand même assez bon pour que les mariés ne disent rien. Il y a eu ce truc de ce moment où tu y vas, les doigts dans le nez, quoi, les mains dans les poches, et tu dis ouais, non, mais c'est bon, j'y arriverai. Alors que faut quand même te mettre dans un petit mental de préparation, d'avoir fait un peu tes gammes avant, surtout quand tu reprends une saison. Enfin, voilà, t'as passé 6 mois ou 7 mois sans faire de photos de mariage, il faut quand même y retourner. Et je me suis pris une claque. Enfin, quand j'ai vu mes photos, je me suis pris une claque et je me suis dit
bizarre.
Non, là, Seb, arrête de prendre, la grosse tête. Là, à vie, tu vas te rappeler d'où tu viens et tu vas bosser, quoi.
Ouais, c'est des coups à part descendre sur terre, donc mieux vaut d'une certaine manière.
Ouais,
cette
c'est une bonne chose, limite, que tu t'es pris une claque assez rapidement, quoi.
Donc bon, par contre, le retour derrière, c'était aussi ce cher Trifon a commencé à plus ou moins tirer les ficelles de son jeu, quoi. A commencé à me dire, bah tiens, c'est bizarre, je pensais que t'aimais ça, la photo, si c'est ça, moi, je veux plus ça, nanana, en sachant pertinemment, en plus, que j'allais dire, non, mais c'est bon, je redescends sur terre. Mais ça, à la limite, il y a de la justification. Donc ça, c'est complètement justifié.
Il te payait combien à l'époque?
Il me payait 200 euros.
Par mariage?
Par mariage.
Pour faire du genre quoi, minuit ou...
Non, pour faire du 8h minuit. 8h, 1h du mat, pas d'essence comprise, bouffe, enfin, c'était, tiens, c'est 200 euros ton cachet et tu te démerdes.
D'accord.
Mais moi, je n'avais aucune idée de savoir à combien t'étais payé sur un mariage. Donc,
oui, pour toi, en tant qu'ancien lycéen, 200 balles, c'était waouh.
Wow, c'était oufissime.
Pour une journée.
Tu passes un samedi à faire des photos et tu te fais payer 200 balles. Et en plus, tu tapes dans le bar. Enfin, non, c'est... Ah ouais, non, mais c'est... C'est vraiment pour un lycéen. Là, bon, évidemment, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui doivent vendre leur Presta. Enfin, tous les photographes pros qui vendent leur Presta à minimum 1000 euros et encore, voire plus. Là, je suis sûr, ils sont tous en train de convulser. Là, retirez vos écouteurs.
Non. Enfin, je pense que vous n'êtes pas en train de convulser parce que vous savez que c'est forcément quelque chose de différent. Mais lui, est-ce que tu savais à combien il vendait ses prestations mariage?
Absolument pas.
Non, il t'a jamais dit.
Non, et puis d'ailleurs, j'ai découvert parce que les oreilles ont traîné.
Mais quand t'as découvert, c'était combien?
Quand j'ai découvert, c'était 1200 euros.
D'accord, donc en gros, il se faisait 1000 balles pour t'envoyer, quoi.
Pour faire de la com sur le bon coin, parce qu'en plus, les prestations de mariage étaient faites sur le bon coin. Alors, ouais. Il arrivait à vendre du 1000 sur le bon coin.
Putain, il arrive à vendre du 1200 sur le bon coin, quand même. Joli.
Mais cette personne-là, assez rapidement, je me suis aperçu oui et non. Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de manip. Comment dire? Il m'a manipulé à peu près dans tous les angles. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'en apercevoir. Mais cette personne jouait sur ma corde sensible qui était « Est-ce que tu veux, oui ou non, vivre de la photographie ?» Et moi, c'était un grand « oui », quoi. J'attends que ça. Avant même de quitter l'école, je savais que c'était ce que je voulais faire. Je ne connaissais pas le monde du mariage, mais manifestement, je gagne de l'argent, je vis, je fais des photos, je vis de la photographie. Ouais. C'est QFD. Et cette personne a joué là-dessus sur à peu près 3 ans. À force de bavardage, de bonimentage, de retournement de cerveau, à me faire des trucs toujours plus gros, toujours plus hors sujet aussi. Parce qu'à côté de ça, cette personne organisait des soirées dans des boîtes de nuit. Et ça n'avait rien à voir, mais il voulait que je lui fasse ses affiches, il voulait que j'aille coller les affiches en ville, des fois il voulait que j'aille prospecter dans les boîtes aux lettres, chose que j'ai faite d'ailleurs avec un ami caméraman qui est rentré dans le réseau après. On a été faire les boîtes des BDE et tout ça pour distribuer des prospectus dégueulasses en plus. Enfin, et puis je dis pas ça pour être méchant, c'est moi qui les faisais, les prospectus. Donc c'était, je l'affirme, je le dis, ils étaient dégueulasses ces prospectus. Et c'était toujours pris de la même manière avec du « est-ce que tu veux faire ci, est-ce que tu veux faire ça ?» Oui, non, parce que moi j'ai pas de temps à perdre avec des gens qui savent pas ce qu'ils veulent. C'était toujours à coup de culpabilité. Et
si tu disais non, il t'en voulait, enfin, il te...
Bah et oui, si je disais non, il me disait franchement, quand je pense à tout ce que j'ai réalisé pour toi, quand je pense à ci, ça, franchement, j'aurais jamais dû faire confiance à un mec comme toi, nanana.
Ouais, on était vraiment, enfin, t'étais dans les mains d'un pervers narcissique. Là.
Voilà, bah d'ailleurs, j'ai découvert ce mot quand tu as mis ça en commentaire sur une de mes vidéos. Je me suis dit, pervers narcissique, c'est quoi ce truc? Et effectivement, la définition colle parfaitement. C'est une personne qui arrivait à te faire ressentir ce qu'elle, elle voulait te ressentir. Le nombre de fois où je suis monté dans ma voiture en lui disant « c'est pas possible, il faut que je lui parle parce que je suis en train de péter un câble », et le nombre de fois où je suis reparti dans ma voiture avec un grand sourire en mode « bah, tout va bien ». Ah merde, ah non, en fait, je crois qu'il y a un truc qui va pas là. Mais ça, ce sentiment, tu le découvres que quand t'es seul dans ton lit, qu'il est 3h du mat parce qu'il y a un truc qui t'empêche de dormir, tu fais « putain ». Là, je me suis fait niquer, là. Encore une fois.
Mais le truc, on en parlait tout à l'heure avant d'enregistrer, c'est on parlait d'influence et manipulation Cialdini, Robert Cialdini, ou Cialdini, je ne sais plus comment on le dit. Mais en gros, c'est un livre que je vous conseillerais plus tard parce que c'est vraiment un super bon livre, mais qui explique un peu les manipulations et tout. Et on parlait du fait que qu'il était difficile en fait aussi d'apprendre tout ça, de savoir comment, enfin pas manipuler les gens, mais comment pouvoir bien prendre les gens pour que notre message passe mieux ou des choses comme ça, parce que c'est quelque chose qu'on doit faire de façon consciente, donc on doit analyser la personne en face, réfléchir à ce qu'on va dire et tout ça. Et sur les pervers narcissiques, c'est des gens qui de base le savent, en fait c'est complètement inné, quoi. Ils vont savoir te retourner le cerveau parce qu'ils ont trouvé la bonne personne aussi, tu vois, c'est ça aussi le truc. C'est qu'il l'a vu chez toi, que je pense par ta jeunesse et par les réactions que t'as eues qui te tenait, et en fait le pervers narcissique choisit aussi sa cible, il va pas pouvoir le faire avec tout le monde.
Là où j'ai été vraiment un pigeon d'or pour lui, c'est que je ne voyais mon avenir qu'à travers l'idée de vivre de la photo. Et cette personne-là, au tout début, parce que c'est vrai que je me suis un petit peu éparpillé très très vite, mais j'ai pas l'habitude de me lâcher comme ça. Souvent, je suis une ligne directive, donc j'ai conscience que je me suis un petit peu éparpillé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'arriver à tout ça, il m'a fait croire qu'il s'intéressait vachement à ce que je voulais faire. Dans les faits, il cherchait juste à avoir des billes pour jouer dessus le jour où il fallait lancer les billes, quoi. Mais il s'est vachement intéressé. Et de mon côté, je me disais, mais ce mec, il, voilà, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Il me vendait aussi le fait qu'il avait réalisé des prestats de ouf dans des manoirs, dans des châteaux, qu'il avait fait des soirées dans des salles de spectacle monstrueuses. Puis moi, j'étais un petit lycéen, j'entends ce mec, mais... Je te dis, waouh, mais attends, mais comment ça se fait que le destin me mette sur sa route, quoi? C'est impossible, je suis rien, je suis personne. Et ce mec, il débarque, il a fait des trucs exceptionnels.
Et t'avais montré des preuves de ça ou pas? Des vidéos, des trucs comme ça?
Pas du tout.
Ah oui, donc.
Pas du tout.
Tu l'as cru, quoi.
Ah ouais, j'ai foncé dedans, quoi.
Mais tu sais, moi, j'ai monté l'Everest.
Ah ouais. Putain, mais t'es un sensei.
Ah ouais, carrément, quoi. J'y étais à fond, hein. Et en plus, en short.
En short?
Ouais, regarde sur internet. Ah ouais, bah vas-y. Il l'a fait, bah c'est moi.
Sur Vimeo, c'est sur Vine.
Oui, parce que ça a duré 7 secondes aussi. Ouais. Il croit vraiment tout, en fait, ce mec.
Faut que je me calme, faut que je me fasse suivre, parce que là, c'est pas possible.
Mais ouais, donc, tu t'es fait, en fait, vraiment, le mec a réussi à te manipuler.
Ouais.
Et donc, ça a duré 3 ans, c'est ça?
Ça a duré 3 ans. Alors, le coup où il m'a vendu du rêve, ça a duré quelques mois. C'était
d'accord.
Le mec, il me vend ses exploits, et moi, comme un idiot, enfin, c'est un peu méchant d'utiliser ce terme, mais naïvement, on va dire, c'est plus gentil, naïvement, à aucun moment, je me suis dit, tiens, et si je lui demandais de me montrer une preuve de tout ça? Non, moi je sors de là, il me dit je fais ci, je fais ça, et je le crois tout bêtement, tout mignon, petit lycéen que j'étais. Donc bah forcément je me dis, mais ce mec là je veux pas le perdre. Je veux dire, il a fait des trucs tellement exceptionnels, ça va être mon gourou, quoi. Ça va être mon prof, ça va être mon sensei, ça va
mentor,
être
quoi.
Mon mentor, voilà. Ça va être la personne à qui je vais pouvoir poser mon esprit et suivre à fond. Donc le mec, il a même pas eu à batailler, en fait, pour m'avoir, parce que je suis en partie responsable de ce qui s'est passé. Est-ce que j'aurais eu un minimum plus de jugeote, ça se serait passé différemment.
Après, c'est, je t'ai trouvé dans la vidéo, je t'ai trouvé un peu dur envers toi-même, parce que c'est quand t'es aux prises avec ce genre de personne, la personne t'a bien cadenassé. Donc,
ah bah là, ouais, bien enchaîné. Ouais.
Donc, je pense que beaucoup de gens peuvent se faire avoir. Et sûrement moi le premier. Il faut faire attention, il faut juste avoir des gens aussi autour qui nous permettent de... Mais une fois que c'est verrouillé, y a un moment... Moi, j'ai eu affaire une fois à un pervers narcissique. Comme je lâche pas grand-chose, il a rien eu de ma part et il est parti. Parce que je suis très chiant avec ça et je fais très, très attention. Mais en aucun cas, jusqu'à ce qu'il parte et que je découvre le poteau rose derrière, jamais j'aurais cru qu'il en était. Tu vois,
ouais.
Et c'était ça a été une expérience un peu, une expérience un peu bizarre. Donc je pense, ne t'en veux pas de ce côté-là. Oui, t'as manqué de jugeote, mais t'étais dans un état d'esprit sans lequel tu ne pouvais pas avoir cette jugeote.
Oui.
Puis en plus t'étais jeune, donc t'avais pas vécu beaucoup de choses.
Gros manque d'expérience.
Voilà, donc c'est là où il a trouvé la bonne cible, tu vois. C'est je reviens en fait que ces gens-là trouvent la bonne cible, vont dessus. Et la lâche plus.
Mais ça s'est fait progressivement, c'est-à-dire que au début vraiment il me faisait mine de s'intéresser à ma vie. On parlait bien, on tchatchait bien, les premiers mariages arrivent, tout se passe bien. Et au fur et à mesure, à partir de l'année d'après, c'est là que les taux a commencé à se refermer, en fait. C'est là qu'il a commencé à mettre un pied devant, puis de l'autre, puis à enfoncer de plus en plus l'empoigne qu'il avait sur mes rêves, en fait. Si bien qu'au bout d'un moment, j'étais tellement habitué à dire oui que le fait de dire non, c'était presque devenu impossible. Et il arrivait à m'en faire culpabiliser. Il me doit encore, je sais pas combien de sommes d'argent, mais il me les doit. Il arrivait à me faire faire des montages qui me prenaient des heures et des heures de ma semaine. Tout ça sans réel grand remerciement. À savoir aussi que cette personne se revendiquait caméraman, mais la plupart du temps, il en faisait rien. Enfin, il faisait que dalle, parce que la plupart des contenus qu'il y avait sur son site internet, sur sa page mariage.net, sur sa page Facebook, il y a beaucoup de contenus qui étaient volés.
D'accord.
Comme des photos. Alors t'inquiète pas, il n'y a pas les tiennes. Parce que... enfin, tu peux t'inquiéter, mais... Ouais, bon, non. Je pense que non. Donc, les photos étaient volées. La vidéo de présentation de son site internet a été volée.
Putain.
Et alors, quelques années plus tard, donc 3 ans après, le mec a découvert... C'est que cette vidéo a été volée et lui a fait un gros coup de chantage. Il a dit, il y a eu un arrangement de derrière les fagots qui s'est fait, mais c'est soit tu me payes cash et tu retires la vidéo, soit on part en procès.
Ouais.
Mais je te dis tout de suite, là t'es dans la merde. Donc, il a fait son choix, mais il y avait énormément de trucs volés. Donc, là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Même, il m'aurait dit, tiens, j'ai été en haut de l'Everest.
Oui, il pourrait le...
Qu'est-ce qui, avec une cagoule ou un truc comme ça, pour le peu qu'il fasse, ouais, c'était un appareil photo un petit peu pété, on voit pas bien, mais c'est l'Everest. Je veux dire, une montagne, un sommet de montagne, ça ressemble à n'importe quel autre sommet de montagne. Dire à Annecy, je veux dire, tu montes au haut du Verrier, t'es au-dessus des nuages. Donc à partir de là, tu peux être n'importe où sur la planète, t'es au-dessus nuages. Ça s'est fait progressivement jusqu'au jour où je n'arrivais plus à dire non, en fait. C'était trop ancré.
Mais est-ce que t'as eu quand même le sentiment de t'améliorer dans ta pratique?
Alors moi, oui, parce que initialement, je n'avais pas envie de me lancer corps et âme dans son activité à lui. J'avais envie de me lancer corps et âme dans la photographie. Mmh. Donc à chaque fois, j'ai cherché à améliorer mes techniques, à regarder mille et un tutos. Tiens, je les ai saignés. Il y en a des tonnes qui sont passées, et même des tutos en anglais, alors que je bite rien en anglais. Mais je me dis, à partir du moment où je vois ce que fait le mec, je vais comprendre, je vais réussir et je vais m'améliorer. Ce qui s'est... entre guillemets fait. Moi, au niveau de ma pratique, ça s'est amélioré, mais ça n'améliorait pas mon confort de vie et mon confort de travail.
Qu'est-ce qui a fait, on va avancer un petit peu, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à te sortir de ces griffes?
Alors, c'est très très con, mais en fait, j'étais absorbé par l'idée, j'étais complètement envoûté par l'idée d'être photographe pro, et au fur et à mesure qu'il me faisait ces beaux bavardages, j'ai fini par croire et ressentir que ce métier me viendrait de lui, en fait. Que ce métier, je deviendrais photographe professionnel, riche. Enfin, pas forcément riche, mais je gagnerais de l'argent, je gagnerais bien ma vie, je gagnerais tout ce qu'il faut pour vivre correctement en étant photographe professionnel venant de lui. Sauf que au fur et à mesure, je voyais bien le rideau se dégrader, enfin, le rideau qui tombait, enfin, je voyais bien que j'étais dans une spirale infernale. Et j'ai bêtement fini par me faire une dépression. Voilà, j'ai bêtement fini par tomber en dépression. Et ce qui est très, très con, c'est que j'ai fini par me foutre de tout. Et c'est étrangement ça qui m'a sauvé la peau. Parce que le gars, je lui disais oui à tout. Ce fameux tournesol, je lui disais oui à tout. Parce que j'en avais envie. Je voulais bouffer le monde de la photographie. Sauf que les années passent. Je travaille toujours à l'usine. Je n'arrive pas à m'en dépêtrer. Et en plus, je constate... que je m'en sors pas, et que c'est pas vivable comme situation.
Parce que t'avais un job à côté.
Voilà, j'avais un job à côté.
En plein temps.
À plein temps. Donc, bêtement, la santé psychologique a fini par se casser la gueule. Et c'est très con, mais d'une certaine manière, heureusement.
C'est très con.
C'est le corps qui a réagi. Je n'arrivais pas à dire non, mais je ne pouvais même plus dire oui. Je n'y arrivais plus. Ce qui fait qu'à petit à petit, il a commencé à voir que je battais de l'aile. Il a commencé à essayer d'être plus gentil, plus rude, plus cool, plus sympa. Et Florian, je t'invite à mon anniversaire parce que t'es quand même un mec bien, tu travailles bien, bon brossage de poils. Mais ça me suffisait pas, c'était trop tard. C'était trop tard, j'étais complètement consumé en fait. Je n'avais plus envie de vivre la photo, j'avais plus envie de rien. Je n'avais plus envie de rien, donc je vais m'arrêter là pour cette partie parce que j'ai pas envie trop d'épiloguer. Mais
juste, je reviens encore sur le plan financier, mais dans les derniers temps, tu gagnais quand même un peu ou...
Non, j'ai toujours gagné plus ou moins 200 balles. Ah ouais, il a fait une petite augmentation de 2 fois 50 euros. Parce que je commençais à faire une dépression et qu'il commençait à voir que je battais de l'aile. Et ça, c'est arrivé au bout de 3 ans.
Ah putain, vache, ouais.
Et j'ai essayé de lui dire plusieurs fois que ça allait pas, mais à chaque fois il retournait la situation. À chaque fois il arrivait à dire mais oui, mais tu comprends, mais moi de mon côté je fais ci, je fais ça, alors que dalle en fait, c'est moi qui faisais tout. Et au bout d'un moment, dans cette dépression, j'ai simplement lâché l'affaire. J'ai arrêté de croire en l'idée que je serais heureux en faisant de la photo.
Ouais.
Et j'ai juste lâché l'affaire. Je me suis dit c'est terminé, on le fait plus.
Donc
sauf que
t'as lâché avec lui?
Non, j'ai lâché l'idée globale dans ma tête.
D'accord.
Aussi, tu ne seras personne dans ce domaine. Cherche pas, reste à l'usine. Okay. Tu resteras à l'usine. Là, tu as 20 ans. Et on se dit à dans 50 ans, tu seras en retraite. Terminé, bonsoir. ouais, ça fait bizarre. Sauf que, à côté de ça, je m'émancipais en faisant de la vidéo. Et je faisais beaucoup de vidéos. Je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, comme à l'heure actuelle. Mais quand me vient aux oreilles une formation qui est donnée pour booster son business en tant que photographe de mariage. Et là, il s'est passé un petit truc dans ma tête. Je me dis, mais attends, parce que la photographie de mariage, là, moi, je me suis grave développé, mais le seul truc que j'ai pas réussi à développer, c'est la communication. Et si j'ai pas réussi à la développer, c'est parce qu'à aucun moment, on m'a permis de la développer. Mais là, c'est une formation qui est dédiée au développement de la communication de mariage.
Et donc, à ta réelle problématique.
Voilà. Donc, je me dis, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre à part du fric ? Alors, certes, c'est chiant de mettre presque 1000 balles dans une formation. Faut les avoir. Dans l'état dans lequel je me trouvais, l'argent, c'était vraiment le cadet de mes soucis. Ouais. J'en avais mais strictement rien à foutre d'avoir un crédit. C'était pas ce qui importait. Donc, je me dis, vas-y, on va le tenter. On va voir ce que ça donne. Et là, j'ai découvert tellement, tellement de choses. Je me suis complètement ouvert, en fait. J'ai découvert ce qu'était...
T'es arrivé dans le vrai monde, quoi.
J'ai découvert ce qu'était le vrai monde. Et c'est là où les quatre murs qui m'entouraient sont cassés la gueule. Et j'ai fait, mais c'est ça de l'autre côté, en fait. Waouh, mais ces posters au mur étaient si dégueulasses. J'y croyais, pourtant. J'y croyais. Je sais pas si l'image est bien choisie, mais... Et donc, je suis rentré avec une montagne de notes. Et surtout, un espèce de nouvel espoir en mode... Écoute, là, ça dépend que de moi. J'ai appris des trucs. Est-ce que vraiment on ne veut plus vivre de la photographie ? Est-ce qu'on ne se donnerait pas une dernière chance ? Une dernière chance ultime ? Mais pour autant, je n'avais pas envie de retourner avec ce gars. Je me dis, c'est pas possible, là, je ne peux plus. Et à force d'essayer de lui dire, je savais qu'il ne me laisserait pas parler. Il ne me laisserait pas la parole, il retournerait tout le temps le truc. Il me ferait culpabiliser. Enfin, je sais que j'arriverai pas à m'en dépêtrer. Donc, j'ai fait un truc que je n'affectionne pas du tout. Mais je lui ai fait une lettre. Enfin, un SMS, en l'occurrence. Je lui ai écrit deux SMS. Et pour dire, c'était tellement long que j'ai fait bugger mon application SMS que j'ai écrit dans l'usine. Parce que j'en avais... De toute façon, j'étais en dépression. Donc, j'en avais plus rien à foutre de rien. En fait. Donc, je lui ai dit, le boss, il arrive. Je lui demande comment s'écrit l'orthographe d'un mot. Quoi, tant qu'à faire. Parce que si c'est le boss, ta place, t'es censé la mériter. J'ai quelques lacunes en orthographe. Donc, vas-y, si tu veux bien m'aider à faire mon licenciement en tant que photographe. Et donc, je lui ai écrit un pavé. Et alors forcément, il a essayé de m'appeler en mode « Oh là là, mais quand je pense à tout ce que j'ai fait pour toi, nanana, c'était... c'est bon, c'est terminé. » De cette formation, du coup, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai mis en pratique ce qu'ils m'ont demandé de faire et ça a marché. Et ça a même plutôt bien marché. J'ai réussi à vivre du mariage pendant 2 ans.
Okay.
Donc, en soi, j'ai découvert le vrai monde du mariage. J'ai découvert que être photographe de mariage, c'était pas trop bien parce que t'étais invité à te la coller et à faire des photos. C'était trop bien parce que tu passais du temps avec des personnes, tu passais du temps à communiquer avec du monde. Et puis même, tu découvrais des univers, tu découvrais des mariés, tu découvrais des personnes. Humainement, ça a été une super belle liste. Enfin, une aventure humaine vraiment, vraiment super cool.
Ouais, t'as découvert ce que t'aurais dû découvrir dès le début.
Exactement. Et en ayant ce passé, du coup, c'était encore plus beau, parce que du coup, je me disais, waouh, mais c'est tellement mieux, tellement bien, tellement ouf. Sauf qu'à force d'en faire, je me suis rendu compte que le mariage, j'étais rentré dedans, mais complètement par hasard, en fait. Je connaissais pas ce monde et il m'avait pas botté parce que ça m'avait fait vibrer les tripes. Il m'avait botté parce que je me disais, je veux gagner de l'argent en faisant de la photo. Et j'en avais gagné. Sauf que c'est bien de gagner de l'argent, mais j'ai découvert que je m'émancipais pas du tout, en fait.
Ouais, j'arrivais, ça te plaisait pas, en fait.
J'arrivais plus à m'émanciper. Parce que déjà, ça me rappelait tous ces souvenirs. Et d'une certaine manière, j'avais envie de m'en éloigner. J'avais envie de dire, non, merde, enfin, c'est bon, quoi. J'en ai marre d'avoir peur de le croiser en tant que caméraman. Parce que lui, techniquement, il était caméraman.
Ouais.
Et j'avais cette peur et cette appréhension de le croiser en mariage. Alors t'as beau te dire, ouais, maintenant je suis un bonhomme, machin, je le calcule pas, ou alors s'il veut la castagne, on va chercher la castagne. Non, t'as beau te dire ça, non, devant, tu fermes ta gueule. Et donc tous ces souvenirs qui me rattachaient beaucoup trop à cette activité que techniquement, d'une certaine manière, je n'avais pas désiré, j'ai tout bêtement décidé d'arrêter cette année. J'ai booké mes derniers mariages qui étaient signés depuis 2018, donc je n'allais pas les annuler sous prétexte que j'ai décidé que j'arrêtais. C'est comme ça que j'ai décidé d'arrêter la photo de mariage, parce que tout simplement, ça me rattachait à des souvenirs que je n'affectionnais pas forcément. Et en plus, ça correspondait à une activité que je n'avais jamais vraiment voulu ni désiré, en fait.
Mais tu n'avais pas trouvé, même dans les mariages que tu as fait cette année, tu avais pris la décision d'arrêter. Mais est-ce que t'as trouvé du plaisir quand même à les faire?
Mais c'est bizarre, mais j'ai trouvé un plaisir coupable à arrêter, en fait. En mode, d'accord. C'est le dernier là. Okay. Là, c'est. Toi, c'est le flûte de champagne. Ouais. Là, c'est la dernière que tu prendras. C'est. Oui, parce que quand les mariés ils t'apportent une flûte, c'est difficile de refuser aussi. Hein. Parce qu'il y a se la coller.
Même quand t'aimes pas le champagne.
J'aime pas le champagne en plus. Je déteste ça. Ouais. Mais il est bon. Hein, le mec, il peut te sortir. C'est un 1900, je sais pas. Ouais, c'est du Carrefour mousseux.
Mais,
quoi.
Mais pareil, dans ta vidéo, tu disais j'ai découvert aussi. Enfin, grâce à tout ça, je me suis dit jamais je ne boirai sur un mariage.
Eh bien, c'est quelque chose que j'ai fait dans la mesure où. Alors peut-être que je me suis pas mal exprimé. Peut-être que le message que je voulais passer est mal passé. Mais avant. quand je dis que je buvais, c'est-à-dire j'allais me servir et des quantités qui n'étaient pas raisonnables.
Oui, c'est ça.
Et ça, c'était avec le fameux tournesol. En revenant de ma formation... Donc il y a ce fameux formateur qui a dit voilà, je représente l'image de ma société, si je bois c'est pas sérieux, donc je donne l'image pas sérieuse de ma société.
Et c'était qui le formateur? Parce que c'était pas mes formations, si vous posez la question, c'était ma formation.
Ça s'appelait à l'époque, parce que je sais pas exactement si ça existe encore, le business bootcamp.
D'accord.
Mais j'ai adhéré à ces mots parce que d'une certaine manière j'en avais besoin en fait. J'avais besoin d'avoir une ligne directive et j'avais besoin de quelqu'un qui me dise Florian tu fais de la merde, mais qui me le dise avec une envie de bien faire. Donc à partir de ce moment-là, j'ai arrêté d'aller me servir et j'ai arrêté tout court en fait de penser une seule seconde à aller me servir au bar. Par contre, effectivement, en fin de soirée, bah c'est quasi systématique les mariés, enfin pour moi en tout cas, alors je sais pas si j'ai une tête de mec qui aime le champagne, mais mes mariés sont venus avec une flûte de champagne. Merci pour ce que t'as fait, c'était super cool la manière dont t'as géré le truc et je suis pas en train de me faire de ma pub parce que de toute façon, j'arrête. Donc vous inquiétez pas, mais voilà, merci, tiens, tu as bien trinqué quand même, tu t'as pas profité. Je suis pas là pour profiter, je suis là pour bosser. Mais ouais, mais non, mais... Bon, allez, vas-y, hop, chin-chin à la vôtre et toutes mes félicitations.
Mais tu sais que cette phrase m'a fait juste réfléchir un petit peu. C'est un truc sur lequel je me posais des questions. Enfin, pas que je me posais des questions, mais après, la plupart du temps, je rentre le soir. Donc, de toute façon, je sais que je peux boire 2 verres et c'est fini. Sauf quand je rentre pas, ça m'arrive je dors sur place, donc une fois que j'ai terminé, ça m'arrive d'aller boire avec les mariés. Mais après, comme j'ai une relation de meilleur ami avec les mariés, c'est différent, tu vois. Ils vont pas le prendre mal que je boive. Après, sur un mariage, tu vois, par exemple, le dernier mariage sur lequel j'étais, il y a 2 semaines, il y avait du vin. J'adore les vins rouges. Et surtout, pour le fromage, il y avait un vin qui était de 1990. C'est-à-dire que c'était... C'est dans la famille du marié, il y a un viticulteur. Et en fait, ce mec avait gardé des bouteilles pour le mariage de son neveu, quoi.
Trop fort.
Et donc tu fais, non, je peux pas, c'est pas possible, je ne peux pas ne pas boire, quoi. T'as pas tout le temps l'occasion quand même de boire un vin de 30 ans d'âge, quoi.
Là, je suis complètement d'accord, mais parce que faut bien appeler un chat un chat. Là, c'est le fromage, c'est un vin de 90, c'est le moment. Par contre, quand il est 10h du matin et que tu demandes une bière.
Oui, non, c'est bien sûr.
Là, c'est clairement pas... On n'est pas sur le même délire. Et encore, tu dis, j'ai fini ma prestation, je bois avec les mariés parce que j'ai une relation de meilleur ami. J'ai fait un mariage de Polonais et ayant des origines polonaises, je l'ai dit à la mariée. Et le soir, elle m'a dit, par contre, là, je te préviens, maintenant, t'as fini le gâteau, il est arrivé, tu poses ton appareil et tu vas.
Et tu vois, ça, c'est les bons moments.
Enfin, ah ouais, ça, c'était vachement cool.
Tu sais
ça,
que t'as réussi ta relation, quoi.
Ça, c'était vachement cool. Puis, bon, c'est parti, c'était de sa faute. Hein. Si elle écoute ce podcast, je tiens à lui dire, Maggie, c'est de ta faute. Parce que c'était chez le coiffeur. Pendant la coiffure, je sais pas si je suis allergique à la laque, mais tu fais un petit de laque. Et faut que je prenne ma respiration. Si je respire en même temps, c'est fini. J'éternue pendant 15 minutes.
D'accord.
Pour un futur coiffeur, c'est emmerdant.
Oui,
tu remarques,
un petit peu.
C'est pas pratique, mais bon, on va tâcher de faire avec. Et j'arrêtais pas d'éternuer. Et puis je lui avais dit avant que j'étais polonais, que j'avais des origines polonaises. Donc elle me fait alors mon petit polonais, déjà elle m'appelait comme ça. Fait je te préviens, ce soir tu me devras un truc. Je sais pas encore quoi, j'y médite, mais tu me devras un truc. Et le soir elle arrive, j'avais ma petite chemise.
Là tu flippes toute la journée en disant putain ça va être quoi.
Et j'avais une chemise avec une petite poche. Et puis au lieu de distribuer des dragées, il distribuait des flasques de vodka, des petites flasques qui est toujours dans ma chambre en Normandie là pour le coup.
Est-ce que ça ressemblait à...
Ah, oh, le chat!
Est-ce que ça ressemblait à ça?
Non, c'était beaucoup plus gros, c'était malheureusement. Plus
gros. Ça, c'est une flasque. Là, vous le voyez pas, mais en gros, c'est au dernier mariage. Ils ont offert aussi une flasque. Mais petite, hein. Il y a quoi? Il y avait un shot dedans, quoi. Et c'était du rhum.
Non, elle a craqué la poche de ma chemise, pour te dire.
Ah ouais?
La flasque et la mariée, parce que du coup.
La mariée a craqué un.
Ouais, parce que du coup.
Regarde, ça devient tendancieux, là, quand même.
Elle m'a vu. J'ai dit, tu te souviens ce matin chez le coiffeur? Elle fait, attends, hop, elle se retourne, elle prend une flasque, elle prend ma poche, elle arrache pas la poche, mais elle chope la poche, pas méchamment, elle était pas bourrée, hein, elle jouait même, j'ai envie de dire, elle était dans l'euphorie, c'est son mariage, tiens, viens là, le photographe, le petit polonais, là. Alors, elle enfonce la flasque, limite, elle me fait mal au pec tellement elle l'enfonce, mais elle m'enfonce ça dans la chair. Et puis elle se barre comme ça, je fais, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et c'est après, elle me fait, maintenant tu vas poser ton appareil photo et vous allez danser. Ah, je m'en souviens. On a dormi dans la voiture, on n'est pas rentré. Je dis on parce que j'étais accompagné d'un caméraman.
D'accord, donc, j'ai eu peur pendant 2 secondes.
Non, non. Ah oui, merde. Ah non.
Bah, en même temps, cet été, sur le mariage d'un de mes élèves, j'ai appris que le marié s'était fait choper vers 1h ou 2h du mat, enfin le soir, quoi, à se taper sa témoin.
Oh merde.
Ouais, c'est beau.
Ah, c'est moche.
Bref,
ah, c'est pas beau.
Nous ne donnerons pas de nom, nous ne donnerons pas de lieu, nous ne donnerons rien du tout. Là, tu as terminé tes mariages.
Oui.
Et que tu avais cette volonté de les terminer, donc de plus en faire et tout. On n'a pas assez parlé pour ça, mais quand je t'entendais, quand on en a discuté un tout petit peu, que ce soit par message ou comme ça, moi, de mon côté, ça a été très difficile pour moi de t'entendre dire tout ça, parce que j'étais là, j'étais... oui, ok, bah moi aussi, je suis arrivé dans la photo de mariage pour le pognon. Ouais, carrément. Sauf que j'y commençais à y prendre goût. Pour toutes les raisons dont, que tu as dit après avoir découvert, enfin après que les murs se soient écroulés et tout ça. Et il y a ce truc de putain, mais c'était ton rêve de vivre de la photo. Et je me dis, mais quel gâchis quoi. Enfin, c'est dommage parce qu'avec les bonnes bases que tu as commencé à avoir et que tu aurais pu vraiment continuer. Et je trouve ça vraiment dommage d'arrêter. Alors, je comprends. Évidemment, je comprends tout à fait ce truc de revivre ça et d'avoir cette peur et tout ça. Mais quand même, si je fais des formations pour devenir photographe de mariage, c'est que j'y crois. Tu vois, je fais pas ça en me disant ça va me rapporter de l'argent et de toute façon, ils marcheront jamais, c'est pas grave, j'aurai eu mon argent. Non, je le ferai pas. Enfin, éthiquement parlant, je pourrais pas mourir dans une glace si je le faisais. Non, j'adore la photo de mariage. J'adore même si je ferais pas ça tout le temps. Et puis j'adore l'enseigner, j'adore voir des gens qui réussissent et qui prennent leur pied dedans quoi. Et donc pour moi c'est difficile de te voir là arrêter et de faire un podcast en me disant putain j'interview quand même quelqu'un qui arrête
le mariage
quoi.
Et en plus il en est content.
Voilà, en plus quoi.
Le con.
Mais là maintenant, c'est encore un peu tôt parce qu'on est en octobre et ton dernier mariage était quoi, il y a 2 mois, 3 mois?
C'était en juin.
Même avec un peu de... on discutait un peu de ce que tu voulais dans l'avenir et tout ça, parce que tu reprends des études de barbier, de garçon barbier. Il y a même pas un petit coin de ta tête qui te dit c'était quand même mon rêve de... Alors la photo de mariage, ok, mais bon, t'es pas obligé de faire que de la photo de mariage non plus, t'as aussi autre chose et t'aurais pas envie de te...
Après, tu sais, moi j'arrive dans ma tête à mixer les deux, rien ne m'empêche de... Tu sais, ceux qui font des photos sur leur Instagram et trucs comme ça, ils prennent des photos de gens encore sur le fauteuil, tout ça, il n'y a pas forcément de mise en scène, mais qu'est-ce qui m'empêcherait de proposer à mon modèle de poser devant un 2 Pro Photo, 2 B2, derrière un décor gris ou un mur ou un truc comme ça? Qu'est-ce qui m'empêcherait de faire de la photo? Et si ça marche, c'est bien, mais... ça pourrait garder un plaisir aussi. Ça pourrait rester un plaisir aussi. Tu vois, c'est... Je pense que je m'en veux, en fait, de m'être mis des œillères et de me dire « je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça » parce qu'en fin de compte, ça m'a pourri 3 ans de ma vie. Et quand les 4 murs sont tombés, j'ai regardé ce qui se faisait autour et je me suis dit « mais en fait, la photographie, oui, c'est bien, c'est beau, c'est cool. Il y a énormément de côtés positifs. Mais il y a plein d'autres choses derrière aussi. » Et c'est un truc de tout con, mais pendant un moment, je voulais faire de la photo de plateau. Bon, alors de plateau de tournage. Bon, la vérité, c'est que des photographes de plateau de tournage, il y en a vraiment très peu parce que ça a un intérêt très limité.
C'est
je veux dire, en France, je veux pas dire de conneries, mais s'il y en a 10, c'est déjà immense. Quoi,
10 qui en vivent.
10 qui en vivent, oui. Donc j'ai très vite l'échelle à faire parce que c'était encore plus d'investissement que le mariage et il fallait une liste de contacts que je ne possédais pas. Donc de toute façon, voilà quoi. J'aurais plus gagné à faire de la photo équestre qu'autre chose parce qu'autour de chez moi, en pleine campagne, des centres équestres, il y en a beaucoup plus, tu vois, par exemple. D'une certaine manière, ça me fait pas si mal que ça, en fait. Et je dirais pas que j'en suis content, mais ça me fait presque du bien de me dire « Mais tu as le droit de ne pas être, de ne pas... tu as le droit. »
C'est
vrai. Tu te bouffes la vie à te dire « Je veux ci, je veux ça, je veux être le meilleur dresseur de Pokémon. » Mais sache que tu as le droit de ne pas l'être. Tu as le droit de regarder ce qui se fait à droite et à gauche et à expérimenter. Tu as que 24 ans. T'as le droit de revenir plus tard sur ta décision et de dire c'est vrai que le mariage c'était quand même vachement bien. Et...
Non, c'est très intéressant là, cet échange, parce que comme je te dis, moi j'ai ce filtre, j'ai ces œillères, forcément, avec tout ce que j'entreprends, ça fait maintenant, c'était ma 10e saison de mariage, et j'aime toujours ça. Sur le dernier mariage, j'ai même pas regardé ma montre entre le moment de l'entrée dans la soirée, dans le moment du repas. Quand j'ai regardé ma montre la deuxième fois, il était 00h30. J'avais fini depuis une demi-heure. Tu vois. Et enfin voilà, c'est pour des moments comme ça que forcément j'ai ces œillères, je sais que c'est bien, enfin j'ai que j'adore ça et je sais que c'est un beau monde. C'est forcément, moi j'ai ce truc de cette espèce monomaniaque, tu vois. Non, mais tu vas devenir, de toute façon, toi, tu sais pas quoi faire, tu vas devenir photographe de mariage. mais c'est pour ça que je voulais cette discussion là de comprendre.
Et du coup, ça m'aide aussi parce que là, je suis exactement en train de faire la même chose pour, bon, c'est pas pub cachée, hein, mais pour mon YouTube, je suis en train d'essayer, enfin, je suis exactement dans la même optique.
Il n'y a pas de pub cachée, allez voir la chaîne Full Time.
Mais toi, d'un côté, là, en moi, j'ai un mec qui me tire en laisse quand même, qui fait hop, 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 tu tires là, tu tires sur la laisse, voilà, un arbre fait pipi, voilà, c'est très bien, voilà.
C'est bien glauque là, ça devient bizarre là, mec.
Soulage-toi 30 secondes, calme-toi, tu vois, c'est. Je pense que j'avais besoin de cette claque aussi pour prendre du recul dans ma vie de manière générale. Et encore une fois, peut-être que d'ici quelques années, je repenserai à ce podcast et je me disais, mais c'était quand même vachement bien de découvrir tant de monde et tout, mais je pense que j'ai besoin de grandir pour ça ou d'évoluer, je sais pas par quel angle voir les choses. J'ai besoin de respirer, de me détacher de la photo de mariage. J'en ai fait pendant 5 ans.
À combien t'étais arrivé en termes de salaire, prix. De prix et donc de revenus cette année par exemple?
Alors cette année j'ai fait deux prestats à combien? J'ai fait deux prestats à 600 €, je les ai complètement bradés. J'ai fait moitié moins parce qu'avant je tournais autour des 1002.
D'accord.
Donc là, j'ai complètement fait moitié moins.
Pourquoi ?
Parce que c'était déjà en 2018 que
que t'avais dit que t'arrêtais ?
Ouais.
Mais donc pourquoi, vu que tu t'as décidé d'arrêter, pourquoi t'as bradé ?
Parce que c'était des personnes que je connaissais à moitié.
D'accord.
Et ils ont dit, allez ci, allez ça. Et là où avant, j'aurais bataillé pour me dire, non mais attends, là c'est mon métier, fais pas chier, j'ai besoin d'argent. Là, je fais, et tu sais quoi, vas-y. C'était une manière de lâcher l'affaire, en fait.
Ouais.
C'était, allez.
Mais t'aurais pas mieux fait de pas les faire ?
Peut-être que si.
Ouais.
Peut-être que si.
Ouais, c'était. T'as pas su dire non,
en fait, j'ai pas su dire non. En fait, je les ai bêtement laissés me dire quelle prise étaient prêts à mettre.
Ok.
Et à aucun moment j'ai essayé de batailler. En mode, franchement, de toi à moi, j'ai pas envie de réfléchir.
D'accord.
Vas-y. Bon, je fais ton mariage, je ferai celui d'après et au revoir.
Et tu lâches le micro.
Et je lâche le micro. Alors, j'ai pas le lâcher.
Non,
pas
s'il te plaît. Parce que... Il est nouveau, donc j'aimerais que tu ne le lâches pas, ce micro-là. Et rapidement, puisque t'as déménagé, t'es passé de Normandie à Annecy,
ouais.
Ce qui te change un petit peu quand même.
Oui.
En termes de relief aussi, ça doit te changer un petit peu.
Ouais. Donc okay. Moi, le relief en Normandie, c'est les marches d'un escalier.
Voilà.
Là, c'est la montée d'un petit 1000 mètres de dénivelé.
Ouais, c'est quoi ? C'est une marche de 1000 mètres,
voilà,
tu vois, c'est pas non plus
c'est rien,
un peu d'escalade. Quoi. Mais donc, quel est l'avenir que tu te traces? Est-ce que tu as un but? Est-ce que tu as réfléchi à là où tu voulais aller ou tu es encore dans un moment où tu sais pas trop et tu vois un petit peu
Alors, d'un point de vue professionnel, je me cadre surtout autour de la vidéo. J'ai vraiment envie de mettre un coup de collier sur tout ce qui est vidéo, pas forcément sur ma chaîne Full Frame, mais sur même d'autres projets, quitte à aider pour du streaming, des montages, des prises de vue, du son. Enfin, l'idée, c'est de me consacrer plus à la vidéo qu'à la photo. Pas que j'ai envie complètement de tourner le dos à la photo, mais j'ai plus envie que ça redevienne un petit plaisir personnel tel que c'était quand j'étais au lycée, enfin avant le lycée, quand je prenais en photo mes épis de blé. J'ai envie de reprendre en photo des épis de blé.
Voilà, on a encore dans
c'est plus la saison, mais
c'est
là tu viens de pourrir mon groove là.
Est-ce que du côté d'Annecy il y a des champs de blé?
Non, par contre il y a des champs de tournesol et c'est pas une blague. En Haute-Savoie, il y a des champs de tournesol et il y en a même plutôt beaucoup, je trouve.
Et bah c'est, je trouve, un bon pied de nez.
Un bon pied de nez, ouais. Mais concernant la photographie, même si le milieu est susceptible d'être favorable à cette activité, j'ai pas envie de m'embêter d'une certaine manière. Mais je me doute que là, t'aimes pas les mots que je suis en train de dire, mais j'ai pas envie de m'emmerder à faire de la com. Pour me vendre en tant que photographe.
Non, je sais pas que. Enfin, après, voilà, t'as expliqué ton choix et je pense que c'est compréhensible. Et potentiellement, je dirais que t'as besoin aussi de temps, pour de temps loin de ça, ce qui est tout à fait compréhensible. T'as un truc qui t'a vraiment pris comme ça, négativement parlant. C'est pas parce qu'il y a du positif pendant un moment que tu vas réussir à oublier tout le négatif qu'il y avait avant pour te consacrer que sur le positif. Donc t'as besoin de tout larguer. Et d'aller sur autre chose pour potentiellement, peut-être, on ne sait pas, revenir après et tu auras le guide du photographe de mariage pour bien te booster là-dedans.
Exactement.
Et réussir. Mais,
je me 4 fois, même en haut de l'Everest. Je prends 7 secondes sur Vine, en short.
En short.
Voilà.
Mais il y en a un qui l'a fait. Il y a un mec qui l'a.
Sandek.
Ah ouais, Sandek, c'est Wim Hof, qui s'appelle le gars, qui est surnommé l'homme de glace. Cet alpiniste, alors je sais pas, là, c'est, il veut le faire, mais c'était en 2007, donc je pense que c'est sur la dépêche.fr. Il est bien connu pour escalader les montagnes en short, sandales et torse nu. A promis hier de se lancer cette fois à la conquête de l'Everest, le toit du monde. C'est un gars, Wim Hof, qui est très intéressant. Il est dans un truc de méditation. Et c'est ça qui lui permet de pouvoir le faire. Et il ouvre des stages, enfin il y a des stages sur lesquels on peut aller pour apprendre à vraiment être en phase avec son corps, à contrôler tout ça et pouvoir faire des randos dans la neige et tout en short.
Il vient d'où? Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'Everest. Hein. Il monte en Normandie, c'est bon, c'est déjà tout un défi. Hein.
Bah, je crois, il est norvégien ou un truc comme ça, le gars. Donc déjà là-bas, tu vois, il y a de quoi faire.
Ouais.
C'est pas la Normandie. Hein.
C'est pas encore la Normandie.
C'est pire. Eh bien, je pense qu'on a bien abordé le sujet. On va passer à la rubrique de fin.
Ouais.
Alors, avant la rubrique de fin, j'ai toujours un petit appel à l'action à faire. Vous commencez à le connaître, cet appel à l'action. Cet appel à l'action, c'est de laisser une évaluation à ce podcast. Si vous êtes sur iTunes ou sur une autre plateforme, si vous l'écoutez sur une autre plateforme qui permet les évaluations. Pourquoi je vous demande ça? C'est parce que ça permet à ce podcast d'être plus mis en avant et ça marche pas comme sur YouTube. YouTube, les likes et tout, c'est pas très important. Alors que sur iTunes, le fait d'avoir des évaluations, 5 étoiles, il vaut mieux, avec un petit commentaire, font que ça met en avant. Et je tiens à remercier, là, à l'heure où j'enregistre, il y a 35 évaluations avec pas mal de très beaux commentaires. Donc merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous avez une question à poser, n'hésitez pas, vous pouvez la mettre dans les évaluations et j'y répondrai. Même ce qu'on va faire, c'est de lire quelques-unes des évaluations, juste pour vous remercier. Et je ne vais pas les lire toutes parce qu'il y en a eu plusieurs, mais Riderlo qui a dit « J'ai beaucoup aimé, les exemples sont clairs et efficaces ». M. Vitra qui dit « Je suis très content de pouvoir écouter ce podcast, moi qui suis sur le point de me lancer dans cette voie, hâte d'écouter les prochains épisodes, ça fait plaisir ». Il y a Zignette qui dit « À écouter, à réécouter, plein de véritables bons conseils, partager son expérience, s'ouvre et se livre sans retenue. » Plein de très gentils messages et un que j'ai particulièrement apprécié de Lou Chronique qui dit « Pas de langue de bois, mais un avis construit, argumenté et basé sur une belle expérience. » Donc merci à vous, c'était le moment, je ne me rappelais plus que c'était aussi en sensant, mais c'était pas le moment je le disais pas pour me lancer des fleurs, mais c'était pour un peu aussi vous remercier d'avoir mis ce genre de message très sincère et ça me fait très plaisir. Donc nous allons passer à, ça fait très branlette quand même hein, tout ça.
Ouais, non.
Mais c'était pas prévu, moi je veux que vous laissiez des questions aussi, que je puisse y répondre.
Ah ouais, je suis bon,
Plus. Mais maintenant passons à la rubrique de fin. Ensuite, et la rubrique de... La rubrique de fin, c'est une rubrique où on vous conseille une activité, un livre à lire, un film à voir, un site à consulter qui a pu changer ma vie ou celle de mon invité. Et donc, quand j'ai un invité, c'est à l'invité de donner un élément. Et tu as choisi de parler de quoi, Florian?
Alors moi, c'est une application qui s'appelle Trello. C'est ni plus ni moins un journal de bord qui vient s'installer sur un ordinateur ou sur un téléphone ou une tablette. C'est accessible sur tous les médias actuels, en fait. Et le concept est très simple. L'idée, c'est de faire 3 catégories au minimum, hein, choses à faire, choses en cours et choses terminées. Et à partir de là, peu importe où tu te trouves, peu importe ce que tu fais, peu importe dans quel état tu te trouves, je ne sais pas ce que je cherche à dire en plus, mais en gros, dans ton quotidien, de manière générale et impromptue, tu te dis, tiens, j'ai cette idée de vidéo, j'ai cette idée de podcast, j'ai cette idée de composition de photo, ou j'ai ça à impacter sur ma fiche de prestation de mariage. Et bah hop, au lieu de l'écrire sur un petit post-it que tu as paumé dans ta poche, qui va se chiffonner, qui va atterrir à la machine et ça faute des petits morceaux de post-it de la machine à laver.
C'est horrible ça, c'est
voilà.
Complètement horrible.
Et bah au lieu de tout ça, tu le mets dans ton Trello, dans choses à faire ou à penser. Après tu peux les renommer comme tu veux en fait, c'est un système de pages où tu vas mettre toutes tes petites fiches, aller à l'intitulé que tu désires, mais le minimum c'est vraiment choses à faire en cours et terminées. Et donc choses à faire, par exemple, rajouter cette prestation sur mon mariage, hop, tu mets dans Trello. Là, t'es en train de faire tes courses. T'es pas du tout dans, dans ton moment, mais je sais pas, t'as vu du taboulé. Tu t'es dit, oh, mais si je rajoute un album photo à ma prestation.
Bah oui, logique.
C'est, voilà, taboulé, c'est un cas de figure qui arrive manifestement tous les jours. Et bah, au lieu de le mettre dans un coin de ta tête où on sait tous très bien que tu vas y repenser qu'après-demain, où tu seras dans une autre situation à la con, où tu pourras pas y penser devant ton ordinateur, tu le mets sur Trello. Et le Trello, tu l'installes également sur ton ordinateur. C'est un compte lié un petit peu comme un Google, en fait. C'est relié sur, un, sur une plateforme en ligne. Mm-hmm. Et quand tu ouvres ton Trello, tu vois, chose à faire. Ah, tiens, manger le taboulé. Non. impacter l'album photo à mes prestations. Et ben voilà, c'est un pense-bête, tout simplement. On peut résumer ça par un pense-bête que tu vas pouvoir... Pour, avec lequel tu vas pouvoir avoir accès à toutes tes plateformes, enfin à tous tes médias.
Et tout à l'heure, tu me disais que ça avait une particularité parce que tu es du genre à penser que tu es un gros feignant et tout.
Oui.
Et ça, je te comprends tout à fait parce que je suis pareil. Et on aura beau faire plein de choses. On va se dire, mais non, on n'a rien fait. Mm. Qu'est-ce que Trello t'a permis donc
de... Eh ben, Trello m'a permis tout simplement de réaliser que j'étais peut-être pas si feignante que, si feignant que ça, pardon. Parce que, eh ben, tout simplement, tu as une catégorie terminée. Enfin, tu te fais ta catégorie finie ou terminée. Chose finie dans la semaine, chose finie dans le mois, chose finie dans l'année. Et toutes les choses que tu fais, eh ben, tu les répertories dans choses terminées. Mmh. Et à la fin de ta semaine, moi, par exemple, j'ai choses faites dans la semaine. Eh ben, je regarde la catégorie choses faites dans la semaine et je me rends compte que j'ai été faire mes papiers pour la banque. J'ai été appeler un garagiste pour mes ampoules. J'ai été faire ci, j'ai été faire ça. J'ai travaillé sur mon mariage, j'ai travaillé sur mes photos, j'ai travaillé sur mes vidéos. Et je me dis, ah bah en fait, là on est dimanche, j'avoue, quand j'y pense, là j'arrive pas à repenser ce que j'ai fait de bien dans la semaine, mais en fait j'ai carburé.
Fait plein de trucs,
en fait. J'ai carburé. Et alors moi je pousse le vice encore plus loin parce que j'ai choses faites dans la semaine, mais j'ai aussi choses à faire ce dimanche, choses à faire ci, mais impérativement. Toute la catégorie choses faites dans la semaine, je la mets dans choses terminées. Et une fois que le mois est terminé, toute la catégorie terminée, je la mets choses terminées au mois de. Donc octobre, novembre, décembre, et à la fin de l'année, je peux me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait globalement toute l'année, je veux dire, qu'est-ce que j'ai foutu? Et bah, le mois d'octobre, j'ai fait ça, le mois de novembre, j'ai fait ça, et je trouve que c'est vachement mieux qu'un cahier, parce que un cahier ou un morceau de post-it que tu écris, parce que quand t'es en train de faire tes courses, bah, le cahier sur lequel tu notes tes idées, qui est sur ton bureau, et bah, il est sur ton bureau, justement, et c'est ça qui est chiant, je veux dire, tu vas le noter sur un bout de papier ou tu vas essayer de le retenir, sauf que dans les faits, tu vas rien tenir du tout. Et arriver devant ton bureau, tu sais que tu as ton cahier, tu sais que tu devais écrire un truc et faire quelque chose, mais
tu te rappelles plus quoi.
Aucune idée. Alors que tu ouvres cette application, et bah, ce que tu as écrit dans Carrefour ou n'importe quelle grande surface.
Oui, il faut mettre les autres.
Ouais.
Auchan, Super U,
ouais.
À Leclerc.
Voilà, on va pas faire les autres pays. Coop.
Qu'est-ce qu'on a d'autre?
La Migros. Et donc voilà, tu check cette application, tu mets tes petites fiches où tu veux, tu peux mettre à reporter, tu crées, c'est ultra personnalisable en fait. Tu peux mettre des codes couleurs par rapport à l'importance de la tâche à accomplir, tu peux mettre un rappel, genre par exemple, moi ce mois-ci c'est faire la déclaration avant le 25. Et ben le 24, je me suis mis un rappel avec alarme sur le téléphone, attention, demain, tu dois pas te chier.
Alors juste un truc par rapport à ça. C'était dans le livre de Fabien Olicard que je viens de lire, qui est « Votre temps est infini », mm-hmm. que je conseille énormément, je ferai un podcast là-dessus. Il dit une chose très très sensée, c'est une des choses très sensées qu'il dit, c'est quand tu vois, tu vas le mettre le 24 pour le 25, mais techniquement, qu'est-ce qui t'empêcherait plutôt de le mettre pour demain? Comme ça, c'est fait.
C'est vrai.
Et ça reste plus... Et le mieux, c'est que ça ne reste pas, ça ne reste pas pollué dans ta tête. Alors même si tu diras, c'est écrit, donc voilà, mais le truc, c'est que si le 24, il t'arrive un truc... et que tu peux pas du coup tu peux pas le faire, bah t'es baisé.
Oui.
Et alors que si tu le fais maintenant, même si c'est un truc qui t'emmerde, tu le fais maintenant et c'est fait.
Et si tu savais le nombre de trucs qui nous emmerdent dans une vie, tu ne peux pas tout faire dans une journée, c'est ça
non,
qui est triste.
Non, tu peux pas, mais je me suis mis à faire ce genre de choses, et en fait c'est très bête, mais des choses que j'ai en tête depuis des mois, enfin des semaines, par exemple pour le salon de la photo qui arrive, ben les trucs, je me dis bon, ok, je le fais maintenant. Et comme ça, c'est fait. Et j'ai pu à me dire, tu sais, une semaine avant, c'est mince, j'ai pas réservé, je sais qu'il faut que je réserve le lieu où je vais dormir. Ah bah oui, mais tout est complet. Alors que si, au moment où je savais que j'allais aller au salon de la photo, je l'avais réservé 6 mois avant, bah j'aurais eu le choix et j'aurais sûrement payé moins cher.
Bah moi, par exemple, tu vois, je me dédie des jours, toujours sur Trello. J'ai la première catégorie, c'est sur le frigo. C'est là, je l'ai nommé sur le frigo. C'est genre le post-it que tu mets sur le frigo, tu vois, voilà, je verrai ça plus tard.
D'accord.
Genre, je sais pas moi.
Pourtant, c'est celui que tu vois souvent.
Oui, mais.
Ça dépend si t'es gourmand ou pas.
Voilà. J'ai la catégorie choses à faire aujourd'hui. Et j'ai la catégorie à faire jeudi. Pourquoi le jeudi ? C'est complètement arbitraire. J'ai décrété que le jeudi serait le jour où je ne travaillerai pas sur mes vidéos ou sur mes projets perso. Ce serait des trucs chiants. Le jeudi, c'est le jour des trucs chiants. C'est je vais
le
chez
mercredi,
le garagiste.
Fait, putain, c'est demain, jeudi. Ouais. J'en peux plus.
Je fais les trucs qui me font chier. Les trucs qui. Faire la déclaration, faire ci, faire ça. C'est pour ça aussi le 25, je crois que ça tombe un jeudi, normalement, si tout se passe bien. Donc j'ai décrété, mais ça peut être n'importe quel jour, que bien le sûr. Jeudi serait le truc chiant. Donc. Catégorie, choses à faire jeudi. Et de la catégorie sur le frigo, à la catégorie à faire jeudi, il n'y a qu'un clic ou qu'un coup de pouce sur l'application. Mmh. Et ça, c'est vraiment génial. Enfin, t'as pas à raturer un truc, tu sais même plus ce que t'as fait.
En tout cas, je suis content que tu sois venu ici un lundi. Parce que je me suis dit que t'étais venu un jeudi, je me serais dit, putain, merde, ça fait chier de venir. Alors que je lui ai rien demandé.
Je voulais juste visiter Lyon, moi, à la base. Et je me retrouve à faire un podcast, j'ai rien
fait. Ouais, alors que t'as pas du tout visité Lyon. Mais en même temps, on aurait été dehors par un temps absolument minable. Donc, ouais. On serait...
Je t'ai ramené le temps normand, je suis désolé.
Ouais, bah, il est là depuis longtemps. Hein. Tu sais, moi, je suis breton, hein, donc ouais. Tu sais...
On va pas commencer parce que sinon.
Ouais. Ouais. Alors, juste, où est-ce qu'on peut te retrouver, Florian, sur un... Enfin, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Sur l'outil internet. Et ben, vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur la chaîne Full Frame. Donc, c'est écrit comme les capteurs de nos chers appareils photo. Et donc, c'est une chaîne sur laquelle le dénominateur commun, globalement, se trouve être la photographie, mais c'est beaucoup plus axé divertissement quand même. Il y a un fond de pédagogie derrière. J'aime bien l'idée qu'une fois que tu as quitté une demi-vidéo, tu as appris quelque chose. Mm. Mais. Ce n'est pas ton rendez-vous du lundi matin en anglais avec Madame Machin. C'est voilà quoi. C'est le.
Et ton rendez-vous du jeudi.
Voilà, c'est le cours de PS ou le prof d'art plastique où tu te marres 30 secondes où tu as le droit de parler en cours parce que c'est un moment qui se veut être agréable. Voilà.
Je vous conseille d'aller la voir. C'est une des rares chaînes qui parle d'images ou de photos que je regarde. Régulièrement, pas tout, mais je regarde. Ça dépend si je suis sur une de mes chaînes où je suis abonné. Si ça se trouve, c'est sur un compte où je suis pas abonné, du coup, je vois pas les nouvelles vidéos qui sortent.
Ça met encore plus la pression.
Mais oui, non, mais c'est pour ça aussi que je t'ai invité à faire ce podcast, parce que j'avais vu tes vidéos. C'était 4 vidéos sur Professeur Tournesol, et allez les voir. Donc le lien sera dans la description. Et puis, ben, je voulais te remercier. D'avoir de t'être livré comme ça. Et donc on arrive à la fin de cette vidéo et là je fais un nouvel appel à l'action. Un appel à l'action pour vous dire qu'il existe une communauté. La communauté Oui Je Le Veux, donc c'est une communauté que j'ai créée pour ceux qui veulent vraiment devenir photographe de mariage et pas ceux qui ne veulent plus devenir photographe de mariage.
Je ne veux plus, voilà, par concurrence. Ah, mais je vais le faire, quoi.
Parce que vous avez sûrement plein de questions à me poser sur comment devenir photographe de mariage, comment en vivre, tout ça et tout. Et vous aurez sur cette communauté accès à un endroit pour me poser des questions et à des lives où je réponds à ces questions. Et donc cette communauté, elle est disponible directement si vous allez sur le guide du photographe de mariage.fr. Vous avez directement un lien pour pouvoir vous y inscrire. Et voilà, c'est un endroit où il y a un forum, il y a une grosse communauté de gens qui sont bienveillants. Enfin, en tout cas, j'essaye qu'ils soient bienveillants. C'est pour ça que Florian, tu n'y seras pas.
Okay, et
vous aurez accès.
De toute façon, ça tombe un jeudi, donc.
Ça tombe toujours un jeudi. Vous aurez accès à un espace organisé avec toutes les ressources gratuites du guide du photographe de mariage et vous serez prévenu en priorité de toutes les nouveautés. Donc, si vous voulez avoir un réel impact sur votre vie en réussissant dans la photo de mariage et que vous aimez ma façon de partager, c'est l'endroit vraiment où il faut être. Donc, vous avez juste à cliquer sur le lien juste en dessous, dans la description de ce podcast, ou aller sur le guide du photographe de mariage.fr et on s'y retrouvera. Je vous donne rendez-vous maintenant dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, que ce soit sur F1.4 ou sur le guide du photographe de mariage. J'arrive plus à parler.
C'était un rototo.
Non, c'était pas un rototo,
Abonnez-vous. J'arrive plus à respirer.
Et à jeudi prochain pour un nouveau podcast sur le guide du photographe de mariage. Entre temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Et tu peux mettre ta phrase de fin.
Bisous. C'est ma phrase de fin.
C'est vrai.